Gloire à Dieu, nous allons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole et lui recommander toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Nous avons soif de t'entendre et nous prions pour que tu te révèles à nous au nom de Jésus-Christ. Viens prendre la première place, parle à nos cœurs, Seigneur, toi qui connais les véritables aspirations, Seigneur, de notre âme, de notre cœur, Seigneur, et toi qui es celui qui nous sauve, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, au travers de l'écoute de ta parole encore, Seigneur. Transforme-nous, délivre-nous, révèle-toi à nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc chapitre 18. Luc au chapitre 18. C'est l'histoire du publicain, du pharisien et du publicain. C'est une histoire qui nous révèle l'enseignement de ce soir se trouve dans cette histoire, mais cette histoire nous révèle aussi l'état que Dieu attend, l'état que Dieu cherche pour sauver un homme. Nous lisons à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous relisons le verset 14 qui est capital. Je vous le dis, celui-ci, donc le pharisien ou le publicain, de qui Jésus parle là, il parle du publicain. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Alors, nous recommençons la lecture. Jésus dit, il donne cette parabole. Quel est l'objectif de Jésus en donnant cette histoire, cette parabole? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Vous savez, généralement, quand quelqu'un pense être bon ou correct, naturellement, il pense être meilleur que les autres. Forcément, c'est une conséquence. Puisque tu es bon, puisque toi tu es honnête, puisque toi tu penses être le plus correct, alors tu estimes que les autres, forcément, le sont moins. Mais ici, on nous donne un détail. On nous dit, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce que, je ne sais pas si, en lisant le verset 9, il y a une subtilité que Jésus donne. Est-ce que cette personne-là dont Jésus parle est correcte? Je pose la question, on peut répondre. Hein. Est-ce que cette personne est correcte? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle n'est pas correcte alors? Quel est le détail qui nous fait dire cela? Se persuadant. Persuader quelqu'un, c'est amener une personne à croire quelque chose avec des arguments. On cherche à amener une personne dans une direction, à lui faire croire quelque chose. C'est ça. Et Jésus dit, ces personnes-là se persuadent. Elles sont convaincues et elles cherchent à convaincre les autres de quelque chose en réalité qui n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le fait de se persuader, c'est que, au fond de cette personne, elle sait bien qu'elle n'est pas ce que Dieu attend d'elle. Le thème de notre partage ce matin, c'est reconnaître notre état pour être sauvé. C'est ça la condition du salut, bien-aimé. Reconnaître mon état. Reconnaître ma situation. Alors tu me diras, mais moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Moi j'ai déjà la vie éternelle. Non, c'est négliger la définition du mot salut. Le mot salut, c'est bien évidemment, c'est comme nous le savons de manière commune, c'est que en acceptant Jésus-Christ, nous recevons sa vie et nous avons aussi accès au bonheur éternel avec Dieu, au paradis, au ciel avec le Seigneur. C'est ça la définition générale. Mais le mot salut veut dire aussi délivrance. Bénéficier de la grâce de Dieu de manière quotidienne et journalière. Mais pour ce faire, il faut commencer par reconnaître son état. Et vous voyez la déclinaison de Jésus au verset 14, il dit, celui-ci, en parlant du publicain, descendit, rentra chez lui et retourna chez lui, justifié plutôt que l'autre. Finalement, le publicain a été considéré juste et donc sauvé par Dieu. Pourquoi ? Du fait de son attitude. C'est ça, bien-aimé. Reconnaître son état pour être sauvé. On dit, Jésus dit, cet homme se persuadait qu'il était correct. Mais en réalité, cet homme savait au fond de lui que ceci n'est qu'apparence. Alors, comment cette personne se persuade? Je nous pose la question. On partage aujourd'hui tous ensemble. Comment elle se persuade qu'elle est correcte? Elle donne des arguments, bien évidemment. C'est écrit, hein, il n'y a rien à inventer. Comment elle se persuade? Au travers des œuvres, oui, mais quelles sont ses œuvres? Voilà, il jeûne. Je jeûne combien? Deux fois par semaine. Plus que ce qui est requis. Donc je fais plus que ce que la loi me demande. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne mon argent. Je donne l'aumône. Je donne la dîme de quoi? De tout? De tous mes revenus. Vous voyez comment elle se persuade? Elle va même jusqu'à dire, une fois qu'il a parlé de lui, il parle maintenant de l'autre, il dit, je ne suis même pas comme ce publicain. Il y a une sœur qui a dit ce voleur, oui, parce que les publicains, c'était considéré comme les gens qui récoltaient l'impôt. Et bien évidemment, ils étaient pour la plupart malhonnêtes. Vous savez, quand l'homme manipule l'argent de façon régulière, il y a une tentation de vouloir s'enrichir. Et vous voyez comment cette personne se persuade que finalement, elle est correcte. Et bien aimé, la question d'aujourd'hui, c'est ça mon premier point, c'est quel est notre état? Quel est mon état ce matin? Quel est mon état véritable, parce que c'est ça que pose ce problème, cette parabole-là. Jésus dit se persuadant. Vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu envoie le prophète Samuel pour oindre David, et Samuel tombe dans le piège de voir Eliab, de voir les grands frères de David, costauds, il dit, c'est sûrement lui. C'est sûrement lui. C'est sûrement. Dieu dit quelque chose à Samuel, il dit, l'homme considère ce qui frappe les yeux. Dieu voit plus que cela. Dieu voit le cœur. Dieu voit l'état du cœur. Dieu voit les intentions du cœur. Dieu va plus loin. Et c'est ce que cet homme-là a ignoré. Mais comment il ignore ça? En se persuadant, en disant à Dieu, mais regarde Dieu, moi, regarde ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un de bien. Hein? Mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous considère que nous sommes bons. Puisque si ta bonté t'amène à haïr l'autre, à mépriser l'autre, c'est que finalement, ce n'est pas la bonté que Dieu attend. C'est que ce n'est même pas la bonté tout court. Et c'est l'état dans lequel cet homme se trouve. Et l'autre, lui, il est là assis, enfin devant le Seigneur, pardon, Il se tape la poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé. Finalement, Seigneur, si je peux venir vers toi, m'approcher, ce n'est que par ta miséricorde et ta grâce. Ce n'est qu'en bénéficiant de ton amour que je peux m'approcher de toi, parce que je ne suis pas digne de venir vers toi. Alors, sois apaisé, parce que je suis un homme mauvais pécheur, mais toi tu es venu pour les pécheurs. Bien-aimé, c'est ça. Notre premier point, c'est quel est ton état? Peut-être que tu luttes avec la colère. Et vous savez, comme Jésus a dit, le mécanisme, c'est lequel? On se persuade toujours. On trouve toujours une circonstance atténuante. Excusez-moi, en français, on dit en voulant excuser ce qui est inexcusable, on accepte ce qui est inacceptable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne se dit, c'est certains qui suivent un peu les procès. Vous savez, il y a des avocats qui viennent pour dire, oui, ce monsieur, mon client, a tué. C'était un peut-être tueur en série, mais vous savez, cet homme, depuis son enfance, il a été battu, il a été peut-être abusé, il a été maltraité. À l'école, c'était la tête de Turc, tout le monde se moquait de lui, et il a grandi avec la haine. Vous voyez, donc, l'avocat, lui, va donner des arguments. Le but, c'est quoi? C'est persuader le juge. Il va donner des arguments pour dire, oui, certes, cet homme a fait du mal, mais il y a une raison qui amène à ce que... Je suivais un qui disait, et ça a touché les juges, hein, l'avocat disait, c'est l'actuel ministre de la Justice, qui était avocat à l'époque, il défendait un monsieur, et il dit, donc l'avocat qui dit, Madame la juge, vous savez, le simple moment où vous, en tant que mère, vous allez pour coucher votre enfant et lui faire un bisou sur la joue, ce monsieur-là, lui, il n'a connu que brimade sur brimade. Les simples moments simples de la vie, il ne les a pas connus. Vous savez que, bien aimé, bon, c'est pas que cet argument-là, mais tous ces arguments-là, vous savez, le juge est humain, il entend aussi. Et le monsieur-là qu'on jugeait était là, en train de pleurer. Et bien aimé, même si le juge a des éléments pour accabler, mais il va quand même tenir compte de ça, du fait que, oui, cette personne est arrivée là, parce que elle a une colère vis-à-vis de la société. Mais bien aimé, je dis ça pourquoi? Pour dire, parfois il nous arrive de légitimer, d'accepter certaines situations, puisqu'on se persuade que c'est normal. Si je me suis mis en colère, c'est parce que l'autre m'a mal parlé. Si j'ai insulté, c'est parce que l'autre a poussé le bouchon trop loin. Il a exagéré, j'ai supporté, mais à un moment donné, c'est bon. Vous voyez comment on se persuade. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur ne veut pas ce matin. Plutôt que de commencer à se persuader, de commencer à dire oui, mais j'ai fait ça parce que, vous savez, il y en a qui volent dans les magasins. Et quand tu lui dis pourquoi tu vas lui dire, ah, mais tu sais, la France a volé, moi je viens d'Afrique. Hein. La France vole tous les jours en Afrique. Ah bon? Donc toi, ça t'encourage, toi, plus que la France vole en Afrique, que toi, tu viens, mais ça ne m'a. Vous savez, tu vas aller devant le juge, tu vas dire ça au juge. Mais le juge va te regarder et va dire, mais non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu as des preuves de ce que tu avances, ça ne se passe pas comme ça. Mais on se persuade que ce que j'ai fait, c'est ce qui est bien. Ayons l'humilité de reconnaître notre état. Notre thème, c'est reconnaître son état pour être sauvé. Bien-aimés, ne nous persuadons pas. Ne nous persuadons pas. Certains aujourd'hui vont dire, je n'aime plus les hommes parce que j'ai été déçu par les hommes. Et on voit l'autre qui change de bord. Certains vont dire, les adultes m'ont déçu. Et il va se tourner dans la pédophilie vers les plus jeunes, parce qu'ils sont plus vulnérables. Bien-aimés, Chaque humain a ses raisons, même si elles ne sont pas entendables. Mais quand on entre dans ce mécanisme-là de vouloir se persuader, alors c'est sans fin. Commençons par reconnaître. Reconnaître notre état, dire, Seigneur, je vis dans la peur. Mais beaucoup vivent dans le déni. Au lieu de reconnaître que j'ai peur, je manque de foi. Non. On dissimule cette peur par autre chose. Vous savez, il y a des gens, parfois, qui sont agressifs. Qui sont sur la défensive. Mais en réalité, quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que ces personnes-là sont des gens qui sont sensibles. Mais qui cache, vous savez ce qu'on dit en français, hein? Ils mettent une carapace. Parce qu'en réalité, c'est mou. Mais ils mettent une carapace pour cacher. Tu parles comme ça, il est sur la défensive, tout de suite. Certains vivent dans les complexes. Peut-être par rapport à son physique. Alors quand ils passent quelque part, ils voient les gens rigoler, ils se disent, ah, ils se moquent de moi. Ils se moquent de mon fils. Et forcément, il est sur la défensive. Et quand on creuse, on se rend compte, ah, en réalité, la personne est tellement sensible, mais cache cette sensibilité-là par un accès de colère. C'est ça la réalité de beaucoup bien-aimés. Reconnais ton état devant le Seigneur. Reconnais ton état. Tu as de mauvaises pensées. Reconnais-le. Jacques 5 nous dit, confessez les péchés les uns les autres. Mais l'orgueil, tu dis, mais non, mais je suis chrétien, moi. Reconnaître ça, c'est comme si je n'étais pas converti. Non. Reconnais ton état, bien-aimé. Il donna cette parabole pour montrer que certaines personnes se persuadent. Vous savez, quand tu te persuades comme ça, tu n'es plus toi-même. Tu joues un rôle. Tu joues le rôle de quelqu'un d'autre. Une apparence parmi les chrétiens, une autre parmi les païens. Comme ça, tu passes partout, caméléon. Tu es tranquille avec tout le monde. Tu es d'accord avec tout le monde. Mais bien aimé, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Hein. Le Seigneur dit, Jésus ne dit pas ça. Il dit, 2 Timothée 3:12, ceux qui veulent vivre pieusement, véritablement, réellement en tant que chrétien, eh bien, ils seront applaudis, ils auront beaucoup d'amis. Non, ils seront persécutés. Ils seront mis de côté. Ils seront l'objet de railleries, de moqueries. C'est ça la réalité. Mais tout bien-aimé commence par reconnaître ton état. Quel est ton état véritablement? Lorsqu'on commence par là, alors nous sommes bien-aimés sur le processus du salut. Vous savez, dans Exode 3, Dieu parle, Dieu apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu. Il dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que lui font les oppresseurs. L'Égypte, il dit, j'ai entendu ces cris, ils sont montés jusqu'à moi. Alors je suis descendu pour les délivrer. Mais bien aimé, vous savez, Israël était en Égypte. Et je pense qu'à un certain moment, ils ne se plaignaient pas de leur vie en Égypte. Mais il est arrivé un moment, comme on nous dit, il y a eu un pharaon qui est arrivé, qui... voyant que les enfants d'Israël avait une grâce particulière, se multipliait. Il a décidé de persécuter les chrétiens, les Israélites. Il a décidé de les tuer, de tuer les premiers-nés. Et pour les adultes, les mettre à une rude servitude, un travail difficile, laborieux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à crier à Dieu en disant, « Non, Seigneur, viens nous aider, nous souffrons. Seigneur, fais quelque chose. » Et Dieu apparaît à Moïse pour dire, « J'ai entendu les cris de mon peuple et je viens pour les délivrer. Alors va voir Pharaon, va lui parler, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. » C'est ça, bien-aimé. Le salut de Dieu passe par la reconnaissance de notre état. Comprendre que... Vous savez, il y a des chrétiens qui ne supportent plus d'autres chrétiens. C'est l'occasion de crier au salut de Dieu pour dire, « Seigneur, on a dit le salut, c'est aussi la délivrance. Seigneur, délivre-moi. » Délivre-moi de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est pas seulement quand on se pavane en disant c'est moi qui suis le plus grand. Non, l'orgueil se manifeste aussi quand on ne supporte plus les autres. C'est de l'orgueil. Puisqu'on considère que soi-même, on est correct. Ah, lui, il est toujours en retard. Ah, lui, il parle beaucoup. Ah, lui, il manque de sagesse. Oh là là, comment il a pu parler encore? Oh là 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 là. Moi, j'aurais pas fait ça. Ah, lui, c'est l'orgueil. Le mal, c'est toujours l'autre. Et c'est ce qu'on voit, c'est l'attitude du pharisien. Au lieu de se regarder lui-même vis-à-vis de Dieu, il regarde l'autre. Jusqu'à ce qu'il y ait des chrétiens qui disent, « Ah, moi, je préfère prier chez moi avec mon frère ou ma sœur, à la maison. Les églises, c'est terminé. » Mais bien-aimés, on passe à côté de... La parole de Dieu, il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais bien aimé, nous sommes d'accord que quand on se retrouve ensemble, on n'a pas toujours les mêmes façons de considérer les choses. Il peut y avoir des frictions. Et Dieu permet cela pour travailler notre cœur, pour travailler la patience, pour travailler la maîtrise de soi, pour travailler l'amour. Pour grandir dans la compassion, la mort à soi-même, Dieu permet tout ça. Alors la facilité, c'est quoi? Oh, ben, je préfère moi rester chez moi, comme ça j'ai pas de problème. Mais bien aimé, c'est pas parce que tu es chez toi que tu n'auras pas de problème. Parce que chez toi, tu as des voisins. Les voisins peuvent te faire des problèmes. Au travail, tu as des gens, ils peuvent te faire des problèmes. Alors c'est pas en fuyant les situations qu'on les améliore, non, bien-aimé, c'est de reconnaître, dire, non, j'ai un problème. Mon problème, c'est que je veux que les choses soient faites comme moi j'ai décidé. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont toujours contre moi, mais... Une personne contre toi, deux personnes contre toi, trois personnes. Vous savez, il y a, j'avais pas prévu d'en parler, un chef où je travaille, qui est chef depuis plus de 10 ans. Et c'est une dame. Et cette dame a un caractère qui est vraiment difficile, très fort. Mais vous savez, pendant plus de 10 ans, elle est cadre depuis plus de, peut-être 15 ans même. Et vous savez, 15 ans en étant cadre, donc tu as suffisamment le temps de t'être installé. Elle est vraiment installée. Et vous savez, le piège de l'orgueil, c'est quoi? C'est qu'elle est arrivée à un niveau où elle se dit, je suis devenue intouchable. Parce que finalement, quand il y a des différends avec des agents, généralement, ce sont les agents qui partent. Et elle, elle reste. Elle a eu des problèmes avec plusieurs agents. Et finalement, c'est toujours les agents qui partent, qui changent de service. Mais elle, vous savez, c'est là le piège du diable. Le diable te convainc en te disant, oh, mais toi, tu es intouchable. Mais vous savez, aujourd'hui où je parle, là, on a reçu un mail, c'était quand on est dimanche, vendredi, de la grande directrice pour nous dire que Madame Intel est suspendue. Bien-aimé, nous sommes dans la fonction publique, attention. Hein. La semaine dernière, la directrice nous dit, parce que les collègues sont partis se plaindre pour dire que non, là, il y a le burn-out, elle met la pression, elle est mal aimable, elle parle mal, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas très facile, en tout cas qui a un caractère. Et la directrice nous dit, mais vous savez, Madame Intel n'est pas difficile qu'avec vous. Même moi, avec moi, la directrice, c'est très difficile. Mais la semaine dernière, elle nous dit, j'ai pas suffisamment d'éléments. La directrice générale de l'IDFI n'a pas suffisamment d'éléments pour engager une action. Donc nous, on lui a proposé de se mettre en arrêt parce que ça va pas. Elle va pas bien. Mais elle a refusé. Vous voyez comment elle tient tête. Elle a refusé de se mettre en arrêt. Et du coup, la directrice lui dit, tu te mets en RTT. Donc elle a pris des congés forcés. Donc elle est revenue lundi. Et c'est là, vendredi, qu'on apprend que Madame Intel est suspendue. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas assez d'éléments. Et là, cette semaine, la personne est suspendue. Alors moi, la réflexion qui m'est venue, je me suis dit, mais pourtant, cette personne a fait plusieurs structures où ça s'est mal passé. Vous savez, quand elle vient lundi au travail, déjà la directrice nous dit, elle vient rassurer l'équipe en disant, parce que les collègues disent, non, mais si elle vient, on se met tous en arrêt. Alors, la directrice dit, non, moi je lui dirai clairement que si elle vient, elle doit rester dans les bureaux parce que les cadres ont des bureaux dans la direction générale et ils ont des bureaux aussi sur les unités. Alors la directrice dit, pour éviter des problèmes quand elle vient, elle restera dans les bureaux administratifs. Elle ne viendra pas sur les unités. Donc c'est moi qui m'engage à cela. Mais vous savez, lundi quand elle arrive, elle n'a pas respecté. Hein. Elle est venue sur l'unité. Et ses collègues qui me disent, mais pourtant on lui a dit, ne va pas sur les unités. La directrice t'a donné. Mais vous savez, je parle de ça, pourquoi bien-aimé. Vous voyez, quand tu arrives à un point, comme Psaume 73 dit, hein, tu montes tellement haut, finalement même ce que le directeur te dit, même ce que les collègues te disent, oh c'est rien, toi tu es le chef. Mais, vous savez, tu vas toujours tomber sur plus fort que toi. On ne peut pas se réjouir, je pense un peu, j'imagine l'état dans lequel cette personne se trouve actuellement. On ne peut pas se réjouir de cela. Mais bien aimé, c'est un enseignement pour nous dire, quand tu es dans le déni, quand une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes te disent la chose, à un moment donné, assis-toi, fais une pause pour dire oui, peut-être qu'il y a un problème dans ma relation avec l'autre. Vous savez, cette personne ne s'entend pas avec tous les cadres. Ses collègues ne s'entendent avec personne. Ne s'entend avec personne. Finalement, suspendu. Et vous savez, souvent quand c'est comme ça, suspendu, à titre provisoire, je peux dire, pour revenir, ça va être compliqué. Peut-être que la personne ne reviendra pas. Mais tout ça pour dire, vous voyez, quand on est dans le déni, c'est comme quelqu'un qui est malade. Tu vas faire le costaud. Tu te dis, oui, souvent quand moi j'ai mal à la tête, je prends une douche, je prends un Doliprane, ça va mieux. Mais tu prends le Doliprane, tu prends ta douche, tu prends deux douches, tu prends un bain, tu reprends un Doliprane. Mais quand tu vois que le corps continue à s'affaiblir, à un moment donné tu dis, bon là, je n'aime pas les toubibs, je n'aime pas les médecins. Mais je vais quand même aller voir ce qui se passe. Parce que le corps m'envoie un message pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne me va pas. Et beaucoup sont dans le déni. Ils refusent de reconnaître leur état. Alors ils disent, Dieu n'existe pas. Alors ils disent, oh, l'histoire de Dieu, oh, c'est pour les faibles. L'histoire de Dieu, c'est pour les faibles. C'est pour les gens qui n'ont rien. J'écoutais le témoignage d'une personne, une femme qui disait que, donc elle raconte sa conversion, elle dit qu'elle a eu une vie difficile, une enfance difficile. Finalement, elle a rencontré quelqu'un et à partir de ce moment-là, sa vie allait bien. Elle faisait des voyages à Miami, elle allait à gauche, à droite, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais elle dit, malgré tout ce que j'avais, il y avait un vide dans mon cœur. Il m'arrivait de m'asseoir et d'être triste. Vous savez, les voitures de luxe, il y avait tout. Je ne me refusais rien du tout. Mais il y avait un vide dans mon cœur. Il y avait un goût d'inachevé. Quelque chose qui fait que, une fois que j'ai le dernier téléphone, une fois que j'ai les derniers bijoux, mais finalement, il y a toujours un goût qui te dit que ce n'est pas ça. Maintenant que tu as eu ça, est-ce que tu es heureux? Alors elle dit, à partir de ce moment-là, ma cousine m'avait parlé de Jésus. Alors je voulais pas entendre parler de Jésus. Quand elle ouvrait la bouche, je m'énervais. Alors comme j'étais en position de force vis-à-vis d'elle, elle se taisait. Mais ce jour-là, j'étais seul, je me suis mis à pleurer. Et je parlais à Jésus, je ne savais pas comment parler. Mais je parlais quand même. Et un jour, ma cousine m'envoie un message pour me dire, est-ce qu'on a une réunion de prière? Est-ce que tu souhaiterais venir? Elle a répondu oui tout de suite. Alors la cousine n'a pas compris. Pour dire, oh mais comment? Moi j'ai envoyé le message comme ça. Et elle répond directement. Alors elle est allée à cette réunion-là. Et à la fin de la réunion, le prédicateur lui dit, toi tu résistes à Dieu. Tu sens au fond de toi qu'il y a un vide dans ton cœur. Tu as cherché à combler ta vie par le matériel, par tout ce que tu as voulu, mais il y a un vide au fond de toi. Mais ce vide-là est dû au fait que tu résistes à Dieu. Alors vous savez, elle dit, à partir de ce moment-là, j'ai reconnu mon état. J'ai reconnu mon état d'orgueilleuse, de pécheur. J'ai reconnu mon état. Bien-aimé, le salut passe par la reconnaissance de notre état. Reconnais ton état. Arrête de te cacher derrière ton petit doigt. Arrête de te persuader que si tu refuses de croire en Dieu, c'est parce qu'il y a trop de souffrance dans ce monde. Arrête de penser que si tu fais le mal, c'est parce que les autres le font aussi. Arrête de penser cela. Commence déjà par reconnaître. Reconnaître que tu mens. J'ai tendance à mentir. Seigneur, délivre-moi du mensonge. Vous savez, le mensonge, Jésus en parle. Il dit, votre père c'est le diable. Et le diable ment dès le commencement. Vous savez, il y a une caractéristique, un péché. Tous les péchés sont graves aux yeux de Dieu. Mais il y a un péché qui est lié à la caractéristique du diable, c'est le mensonge. C'est sa nature. Il est menteur. Il va prêcher le faux pour avoir le vrai. Il va semer la zizanie. Il va te mettre des pensées en te disant, oh, tu es nul, regarde, oh là 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 là. Toi, c'est quel chrétien ça? Oh là 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 là, mais tu es zéro. Mais quand on te dit comme ça, tu es zéro, dis oui, moi je suis zéro, mais Jésus-Christ est le champion. Alors je m'appuie sur Jésus-Christ. Je m'appuie sur toi. C'est ça. Alors lorsque tu sens au fond de toi que tu as tendance à mentir, parce qu'après ce sont des esprits qui viennent, parfois tu mens sans savoir pourquoi tu as menti. Sans savoir pourquoi, mais tu mens. Alors reconnais ton état pour dire, Seigneur, viens me délivrer du mensonge. Et quand tu commences à mentir comme ça, vous savez, les mensonges se construisent. Tu as menti aujourd'hui. Alors pour maintenir ta bonne image, tu vas mentir encore demain parce que hier tu as menti. Mais pour être cohérent, tu vas mentir encore après-demain. Mais pour être cohérent, tu vas... Mais vous savez, en français, on dit mentez, mentez, il y restera toujours... Qui connaît ça? Mentez, mentez, il y restera toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y aura un détail qui va rester. Et c'est ce détail-là. Vous savez, je suivais des enquêtes, je ne sais plus sur quelle chaîne, où l'officier, le policier qui racontait l'histoire disait, aujourd'hui avec la technologie, on arrive à élucider les crimes. Mais il dit aujourd'hui, le crime parfait n'existe plus. C'est-à-dire que les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, même si tu as lavé, même si, vous savez, tu vas laver les choses à l'eau de Javel, à je ne sais pas quel produit, mais eux, ils ont des produits qui viennent pour dire, ah, la Javel est passée par là. Mais au-delà de ça, ils vont encore plus loin pour trouver pourquoi ça a été lavé. C'est ça, bien-aimé. Alors la parole du Seigneur aujourd'hui, c'est reconnais ton état. Sois comme ce publicain qui a été sauvé. Il a dit à Jésus, il a dit à Dieu, pardon, Seigneur, ô Dieu, aie pitié de moi. Sois apaisé. Je suis un homme mauvais. Je suis un homme pécheur. Viens à mon secours. Peut-être que tu as honte de le dire devant les gens. Fais comme cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai raconté l'histoire, le témoignage, qui dans sa chambre, toute seule, dans le noir, elle a prié. Elle a pleuré en disant, Seigneur, je suis vide. Fais comme Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus. Il s'est dit, la journée, c'est compliqué. Moi, je suis docteur d'Israël. Il y a beaucoup d'enjeux. Alors, j'irai voir le Seigneur. J'irai le voir la nuit. Mais au moins, fais la démarche. Reconnais ton état. Reconnais ta situation. Vous savez, l'apôtre Paul en parle en Romains 7. On ne va pas le lire. Il parle de la condition de l'homme. Il parle du péché qui est dans l'homme. Il parle du mal qui est dans l'homme. Il parle aussi de la bonne volonté qui est dans l'homme. Il dit, je sais ce qui est bien et je veux le faire. Mais quand je veux faire ce qui est bien, il y a le mal finalement qui se manifeste. Alors il y a un conflit. Moi je veux faire le bien. Je sais ce qui est bien. Mais ma chair qui est vendue au péché me pousse à faire le mal. Mais qu'est-ce qu'il dit finalement? Il dit, oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Et bien aimé, c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui, bien aimé. Dieu veut nous délivrer. Mais il faut reconnaître, et Romains 8, la suite du verset nous dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance, de la mort et du péché. C'est ça la réponse de Dieu. Mais, bien aimé, pour y arriver, il faut d'abord en amont reconnaître son état. Reconnaître que je suis faible. Reconnaître que je suis petit. Reconnaître que je peux me tromper. Il y a des gens qui pensent toujours avoir raison. Voilà l'exemple de cette personne dont j'ai parlé, le chef. Tu es chef sur tes agents, mais tu auras aussi des comptes à rendre à des chefs. C'est ça la réalité. Monsieur Macron, c'est le président de la République. Mais il aura des comptes à rendre aux Français. Il y a des élections qui arrivent. Dans 6 mois, tu as beau être le chef, mais tu as des gens qui peuvent décider de te mettre ou de ne pas te mettre. Bien aimé, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Goliath se disait, je suis le plus fort, je suis le plus grand. Qui peut me défier? Et quand il avançait, tout Israël reculait. Il se cachait même. Mais vous savez, un jour, Goliath a été vaincu. Et l'ironie de Dieu, l'ironie du sort, c'est que ce n'est pas un costaud qui a battu Goliath, c'est un enfant, un jeune. C'est ça, bien-aimé. Tout ça pour nous dire, reconnaissons notre état. Arrête de faire le costaud. Il y a des gens devant les autres, ils vont dire, oh Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, c'est des bêtises. Réunion de famille, vous savez, il y en a toujours un qui est le plus... Il parle fort devant tout le monde. Et parfois, certains rigolent même, ils disent, oh là là là. Mais bien aimé, vous savez, c'est comme à l'école. Hein. Parfois, tu fais le pitre dans la classe. Tu fais le petit qui fait rire tout le monde. Mais, quand il faut rentrer à la maison, tu n'es pas avec tes copains. Tu es tout seul sur la route de l'école. Contrôle. Oh, vous savez, quand on rend les copies, vous cherchez à savoir qui a la meilleure note. La meilleure note, allez, 7 sur 20. Ouais, bon, toi, tu as 2 sur 20, tu dis, bon, 5 points d'écart, c'est pas mal. Vous savez comment en français on dit, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, ça me rassure. Alors, tu regardes, tu as 22 sur 20, tu dis, ah, là, ça va chauffer à la maison. Mais là, le premier à 7, bon, tu te persuades en disant, bon, quand je vais rentrer à la maison, j'ai mon argument pour dire, attends, papa, le plus intelligent de la classe, il a eu 7. Moi, j'ai eu 2, donc on a eu 5 points d'écart. Mais ce n'est pas le problème de ton papa. Mais vous voyez comment on réfléchit. L'homme réfléchit comme ça. Il se dit, bon, c'est le moindre mal. Mais ça ne marche pas comme ça. Reconnais ton état. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, un jour, j'avais prévu qu'on lise, mais on ne va pas le lire, à cause du temps. Jésus entre dans Jéricho. Il va chez un homme, c'était un publicain, un chef des publicains, qui s'appelle Zachée. Et lorsque Jésus voit cet homme, il dit, descends, dépêche-toi, car je vais loger chez toi aujourd'hui. Alors les gens qui étaient là disent, mais il va loger chez un homme pécheur, chez un voleur. Et vous savez, lorsque Jésus entre dans la maison de cet homme, qu'est-ce qui se passe? Zachée dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que j'ai pris. 4 fois plus, je le rends. Et qu'est-ce que Jésus dit? Le salut est entré dans cette maison, car celui-ci était aussi un fils d'Abraham, bien-aimé. Le salut passe par la reconnaissance. Zachée a reconnu. Vous savez, Zachée n'a pas dit, oui, mais tu sais, Jésus, moi je suis le chef, mais mon adjoint aussi vole. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. On est plusieurs. Hein. Donc si moi je dois rembourser, il faut que tout le monde rembourse. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Un couple qui fait des magouilles, mais le jour où ça chauffe, divorce, la femme va balancer. On a vu avec Cahuzac. Hein. Quand c'est des millions, il n'y a pas de problème. Mais quand ça chauffe, la femme est allée balancer le monsieur pour dire oui, il a des comptes. Bien aimé, ce monde est cruel. Ce monde-là, il est cruel. Il est difficile. C'est ça la réalité. Zachée a reconnu devant Jésus la perfection. Il a dit, je décide aujourd'hui. Je ne rentre même pas en discussion avec toi. Je ne me pose même pas la question de ce qui adviendra après. Non, Seigneur, je décide de te restituer. C'est ça l'objectif de notre prédication, exhortation de ce matin. C'est nous dire, reconnais ton état et parle à Jésus directement. Parle-lui. Parle à Jésus. Dans Marc 10, on nous parle de Bartimée. Il entend que Jésus passe et crie. On lui dit, tais-toi, il crie plus fort. Jésus s'arrête. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, oh, comment toi tu sais que moi je suis fils de David? En quelque sorte, le Messie, c'est ça que ça veut dire. Aie pitié de moi. Jésus s'approche. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Oh, mais Je pense que les gens qui étaient autour disent, mais Seigneur, mais attends, regarde comment il est aveugle, tu demandes. Que... Jésus demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, regarde, je n'arrive pas à voir. Et Jésus redonne la vue à cet homme-là. Il a crié, mais pour crier, il a d'abord reconnu qu'il était aveugle. Et beaucoup sont comme ça, aveugles. Ils pensent être intelligents, ils se persuadent d'être intelligents. En réalité, ils sont aveugles. Encore faut-il le reconnaître. Vous savez, il y a un homme dans Luc 23. Il y a deux hommes. À partir du verset 32, pour ceux qui veulent lire à la maison. Ce sont deux brigands qui sont crucifiés avec Jésus. Alors le premier... regarde Jésus, je pense qu'il le regarde de haut, en colère, en disant, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, le Fils de Dieu, ici avec nous. C'est n'importe quoi, ça c'est moi, c'est pas écrit. Hein. Vous n'allez pas vous trouver n'importe quoi dans la Bible. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous et sauve toi-même et sauve-nous. Comment tu nous fais honte comme ça? Et l'autre qui est à côté lui dit, oh, mais toi crains Dieu. Toi, tu es puni pour ce que tu as mérité. Moi, je suis puni pour ce que j'ai mérité. Nous sommes punis pour ce que nous avons mérité. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus répond quoi à cet homme? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où? Au paradis. Bien-aimé, c'est cela. Le salut passe par la reconnaissance de notre état. Commence par reconnaître ton état. Ne te cale pas sur l'état. Non, l'état de l'autre, c'est son problème. Vous savez, il y en a qui sont tellement complices, complices même dans la bêtise. On voit ça avec des jeunes. Vous savez, les bandes de jeunes. Oh, caïd, caïd, caïd. Oh, la police, oh, les poulets, ils rigolent. Là, ils sont ensemble, vous savez, c'est un effet de masse. Et vous savez, quand la police te prend, garde à vue, vous êtes séparés. Hein. Et comme les policiers ont fait aussi de la psychologie, vous savez, il y a un phénomène d'usure. Quand on vous attrape, on vous appréhende, vous avez la même version, hein. Vous êtes déjà concerté pour dire, bon, on va dire ça, on a fait comme ça, on a fait... Mais au bout d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, le lendemain matin, le policier arrive et dit, écoute, monsieur, on va arrêter les bêtises, on va arrêter les blagues, maintenant, ton camarade qui est de l'autre côté a avoué, il a tout dit, il a cité ton nom. Oh ! Il m'a balancé ! Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas pouvoir être le plus grand caïd, mais à un moment donné, tu es confronté à la réalité. Là, tu es seul. Et vous savez, parfois, ce qui arrive, c'est que parfois, le grand caïd, là, il dit au policier, bon, j'avoue, mais vous êtes clément. Vous êtes cool avec moi. Mais oui, tu vas payer quand même, mais ils vont tenir compte de ça. C'est ça la réalité. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui veulent être complices dans la bêtise, mais bien aimé, dans ton cercueil, tu ne seras pas avec tes amis. Tu seras tout seul. Lorsque tu seras devant Dieu ou devant le juge dans une affaire, on va juger chacun pour son dossier. Même si le dossier est commun, mais on va parler de tel, on va parler de tel, on va parler de tel, on va parler... Et parfois même pour la même chose, parfois les peines sont différentes. C'est ça. Et cet homme-là, le deuxième brigand, il a compris. Il s'est dit non, je ne veux pas être complice dans la bêtise avec mon ami. Il reprend son ami en disant, non, sois sérieux quand même. On a fait des bêtises, mais là, c'est le Fils de Dieu. Crains Dieu quand même. Il y a des limites à ne pas franchir. Il dit, nous sommes mauvais. Oh, Jésus regarde cet homme, il dit, voilà, tu as compris. Il dit, non seulement nous sommes mauvais, mais il se tourne vers le Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi, Jésus lui dit, le salut. Est entré aujourd'hui dans cet homme, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Bien-aimé, c'est cela. Le salut passe par la reconnaissance de notre état. L'objectif de ce matin, c'est que tu reconnaisses que toutes les situations que tu as traversées, vous savez, il y a des gens qui ont vu des miracles. Il y en a qui ont fait des accidents pour très peu. Pour très peu, je dis bien très peu, des gens sont morts. Mais toi, tu as fait un accident. Tu es encore vivant. Et vous savez, pendant ce temps-là, où tu es vivant en convalescence, on te parle de Dieu, tu écoutes. Parce que tu es encore en situation vulnérable. Mais une fois que tu as pris les forces, vous savez, l'homme oublie vite. L'homme oublie très vite. Il oublie vite. L'image que j'ai, c'est... j'ai vu ça, je ne sais pas, sur WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Un mouton, certains ont vu ça peut-être, un mouton qui court et qui tombe dans un trou. Enfin, dans un trou qui fait une bordure d'une clôture. Alors le maître vient, il sort le mouton et le mouton recourt encore. Mais en courant encore, il revient, il retombe encore dans le trou. Ouais, bien aimé. Mais quand tu vois la vidéo, tu dis, mais c'est curieux de voir. Mais bien aimé, c'est ça l'état de l'homme. Quand il est au plus mal, là maintenant, il peut entendre parler de Dieu. Il y a un trou qui va arriver encore devant. Reconnaissons notre état, bien-aimé. Peut-être que tu es chrétien. Tu te persuades en disant, oui, j'ai des mauvaises pensées parce que c'est légitime. Parce que... Non. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas à supporter un tel ou un tel. Seigneur, change mon comportement. Change mon attitude. Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, c'est ça la prière que Dieu attend de chacun de nous. Nous allons prier. Et si tu es là, tu entends aussi la parole du Seigneur, l'appel de Dieu. Tu résistes en te disant, je suis encore jeune. Vous savez, c'est ce que Jésus dit, il se persuade. Mais il y a des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes qui sont en pédiatrie, au CHU, qui souffrent parfois de cancer. Il y a des jeunes qui souffrent de maladies. Dernièrement, la semaine là, je crois, j'étais au CHU avec un jeune en neuropédiatrie. C'est là que tu vois un petit jeune. Mais avec des problèmes mentaux. Et moi, j'emmenais un jeune justement qui avait des problèmes aussi. Il venait pour faire l'EEG, l'électro... je ne sais plus comment ça s'appelle, électro... Là où on met des j'ai oublié EEG, mais j'ai oublié... électroencéphalogramme, voilà. Bien aimé, j'étais présent alors qu'on faisait les tests, on met des électrodes, on met partout, on dit ouvre les yeux, ferme les yeux, ouvre les yeux, ferme les yeux. Bien aimé, rien que ça. Moi je suis assis là, je regarde. Et t'as le médecin qui dit oui, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et il essaie de voir s'il y a des retards. Seigneur, gloire à ton nom. Et la salle d'attente était pleine, il y avait des mamans avec leurs enfants qui ont tous des problèmes mentaux. Rien que ça, bien aimé, quand tu vois ça. Et parfois on se plaint. Ah, j'étais un gros. Qu'est-ce que ça, cela? Quand tu es dans une salle d'attente où tu vois qu'il y a des enfants qui sont handicapés, viens me sauver. C'est que Seigneur, tu nous montres par l'exemple de ce publicain qui cria. Trouve des arguments même pour t'incriminer, ô Seigneur. Elles sont misérables, Seigneur. Arrête. Intelligence pour dire cette phrase. C'est toi qui leur as donné cette intelligence, Seigneur. Quand tu nous reprends, Seigneur. Plutôt que d'opposer des arguments, plutôt que de nous convaincre nous-mêmes. Seigneur, merci de nous délivrer. Tu vois ce qui est en nous, comme cet homme riche, constitué de nous, Seigneur, comme il est écrit dans Luc. Mon Père, j'irai voir mon Père, je dirai à mon Père, que, Seigneur, aide-nous à avoir l'attitude de ce fils prodigue.